Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité avec ce matin une émission exclusivement consacrée à l'élection du nouveau pape. Il était 16h08 temps universel hier lorsque la fumée blanche s'est élevée de la fameuse cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican. La clameur, vous l'avez entendu dans nos reportages, la clameur a immédiatement envahi la place Saint-Pierre. Habemus Papam, un nouveau pape élu après seulement 24 heures de conclave. Il s'agit de Robert Francis Prévost. Il est américain. Il a choisi de porter le nom de Léon XIV, qui est donc le 267e souverain pontife. Quelle est son histoire? Quelle est sa ligne idéologique? Que faut-il retenir d'ailleurs de son premier discours? Quels sont les défis, les enjeux qui l'attendent? Jusqu'à 9h, temps universel, nous répondons à toutes vos questions. Et dites-nous également ce que vous inspire ce choix. Premier pape nord-américain, quels sont vos attentes, vos priorités? Léon XIV devra-t-il s'inscrire dans la lignée de François ou espérez-vous plutôt un pape un peu plus conservateur? Vous avez la parole, appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Geneviève Delru. Bonjour Geneviève.
Bonjour Juan.
Bien connue des auditeurs, ancienne journaliste de RFI, spécialiste des religions, vous avez créé Religion du Monde, un magazine qui existe encore sur l'antenne de RFI et qui est présenté désormais par Véronique Guémard. Avez-vous été surprise, Geneviève Delru, hier, par l'identité du nouveau pape?
Oui, très sincèrement, oui. Je ne m'attendais pas à un pape nord-américain. C'est vrai qu'on avait davantage pensé, alors, ou bien à la continuité avec le cardinal Parolin, secrétaire d'État voilà, du Saint-Siège. Mm-hmm. Bon, ça, c'était une sorte de continuité, on va dire, c'est ça. Et puis, bon, il y avait bien sûr... Il y avait des poids lourds quand même, hein. Il y avait d'autres poids lourds. On pensait, mais peut-être que c'était une projection, on pensait au cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. On pensait parfois aussi au cardinal Erdeux, bon, un plus conservateur. Mmh. Bon, c'est très compliqué en fait d'arriver à trouver. Il faut quand même, je pense, être sur place.
Il figurait sur la liste des principaux favoris ou pas?
Alors... Peut-être, ça dépend. J'ai vu des listes où il ne figurait pas, oui. Des listes où il figurait en bas. La dernière fois où il figurait, effectivement, il était un peu remonté. Je pense qu'il fallait, à mon avis, vivre à Rome pour vraiment comprendre qu'il avait ses chances, de grosses chances. Parce que ce cardinal a vécu à Rome, donc c'est depuis 2013, il vivait à Rome. Hein. Il était en charge du dicaster pour les évêques, qui est un très gros poste qui vous permet de connaître l'Église universelle. Mmh. Et finalement, on avait peut-être un peu sous-évalué ce poste-là qui allait le conduire, notamment parmi ses autres qualités, à son poste.
En tant que journaliste, Geneviève Delru, vous qui couvrez, qui suivez les questions religieuses depuis maintenant un peu plus de 30 ans, Léon XIV est le 4e pape que vous avez couvert.
Ça ne me rajeunit pas.
Bon, mais en tout cas, ça en dit sur l'expérience et l'expertise que vous avez aussi bien sur les coulisses, le fonctionnement du Vatican et plus largement de l'Église catholique. Qu'avez-vous ressenti hier en voyant Léon XIV apparaître sur la loggia de la basilique Saint-Pierre avec ses habits religieux qui rappelait ceux de Benoît XVI?
Exactement, parce que je me disais, bon, le nouveau pape, comment va-t-il apparaître? Est-ce que ça sera comme François, qui voulait être un pape, j'allais dire, pape normal? Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, être tout en blanc, absolument, voilà, aucun signe particulier de sa fonction, ce qui lui a été reproché d'ailleurs après par certains conservateurs en disant, il désacralise la fonction. Et là, j'ai vu Benoît XVI. En tous les cas, la façon dont Benoît XVI était arrivé à la loggia de la place Saint-Pierre en 2005. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça c'est un signe. C'est un message à l'égard des conservateurs. Et là, je pense d'ailleurs aussi, je pense même beaucoup aux catholiques africains, en tout cas à certains prélats africains. C'est un message pour eux, voilà, je vais continuer avec la doctrine. Je ne vais pas la bousculer.
Je ne renverserai pas la table. Bon,
voilà.
On va passer au standard, Geneviève Delru. Les auditeurs sont impatients, évidemment, de s'exprimer et de dialoguer avec vous. On va commencer, Christ, voilà, c'est son prénom, Christ à Brazzaville, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à Geneviève Delrue.
Bonjour Christ.
Nous vous écoutons, quelle est votre question?
Alors, pour élire le pape François, il a fallu 2 jours. Tandis que l'élection du nouveau pape n'a pris que 24 heures. Alors, comment expliquer un conclave si court?
Alors, 24 heures de conclave, 4 tours de scrutin. En fait, il faut préciser à Chris que c'est exactement la même chose que pour l'élection de François en 2013. Hein. Il y a eu 4 tours de scrutin.
Non, François, non. C'était 5.
5 tours de scrutin.
Et c'est Benoît XVI, 4.
Ah, Benoît XVI, 4. Voilà, merci de me reprendre.
C'est très, très, très court, bien
mais
sûr.
Mais que faut-il comprendre, justement?
Il faut comprendre que, très rapidement, il a fait l'unanimité. Très rapidement, les cardinaux ont dû comprendre que c'était l'homme qui allait pouvoir être l'homme du compromis, en quelque sorte, entre les progressistes et puis les plus conservateurs, que c'était un pasteur. Ça, c'est hyper important, hein, qu'un pape ait une approche pastorale. Le terrain, il le connaît. Il a vécu plus de 20 ans au Pérou. Il a créé une paroisse au Pérou. Il a été curé. Cette expérience missionnaire, c'était un atout important. À cela s'ajoute l'expérience à la curie, depuis 2023, où le pape l'avait choisi.
Et puis, il a rapidement fait la quasi-unanimité. En tout cas, il faut au moins 89 voix pour être élu pape. Les détails du vote, on ne les connaîtra jamais, Geneviève Delrue. Tout ça reste secret.
On connaîtra probablement ce qui s'est dit aux congrégations générales avant. Comme ça s'était passé pour François, on sait que François, il a prononcé cette phrase évoquant les périphéries existentielles, un mot qu'on ne connaissait pas, à vrai dire.
À l'époque, oui.
À l'époque, on a eu du mal à le comprendre au début. Bon, il voulait dire justement aller vers les plus petits, les plus pauvres, les plus exclus, etc. Bon, comme un jésuite peut effectivement en parler. Et cette phrase-là, semble-t-il, a été comme un électrochoc et a décidé de... Enfin, bon, il était déjà, malgré tout, favori à l'élection précédente. Mais en tout cas, c'était extrêmement important, c'était déclenchant. Peut-être qu'il y a eu effectivement cette phrase, une phrase comme ça, mais je pense plus à une expérience, à une attitude, à quelque chose de très rassurant. Il est rassurant.
Il vous a rassuré hier?
Ah oui. Quand on le voit, il est arrivé. Moi, j'ai été étonnée de la façon dont il a endossé la fonction immédiatement. Une espèce d'assurance tranquille, d'autorité tranquille.
On repasse au standard, je vais dire. Yosunon, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Véronique Guémard, votre envoyé spécial au Vatican.
Qui doit certainement nous écouter, ou peut-être déjà en train de faire des reportages, bien évidemment. Geneviève Delrue est à mes côtés, quelle est votre question?
Le pape Léon XIV est le premier pape américain. Sa nationalité a-t-elle pesé dans son élection?
Alors Geneviève Delrue, le fait qu'il soit américain?
Non, c'est un demi-américain du Nord, parce qu'il a tellement vécu au sud.
Oui. Alors, il a la nationalité américaine, mais pas seulement.
Péruvienne aussi.
Péruvienne également.
Eh oui. Donc, je dirais que c'est un Américain du Nord et du Sud. Et puis, ça n'a pas joué. À la limite, ça aurait pu jouer contre lui. Ça aurait pu jouer contre lui dans la situation actuelle, en se disant, bon, voilà, il y a déjà une Amérique puissante, on va ajouter un pape en plus américain, ça fait beaucoup. Donc, non, ça n'a absolument pas joué.
Ouais, en tout cas... En vous écoutant tout à l'heure, j'ai eu l'impression que c'est surtout son parcours
absolument,
au sein de l'Église qui a pesé dans cette élection. Et justement, Marius Trésor a des questions à vous poser sur l'histoire de Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. Bonjour Marius.
Oui, bonjour Monsieur Juan, bonjour à Geneviève Delrue, un plaisir de vous l'entendre ce matin.
Ben voilà.
Partagez.
On vous écoute.
Alors, Monsieur Wang, je voudrais savoir quel est le parcours de Robert Francis Prévost au sein de l'Église catholique.
Alors, racontez-nous, Geneviève Delrue.
Alors, c'est manifestement un élève brillant qui va étudier les maths, la philo. D'abord, il est né à Chicago, déjà. Oui. Il est né à Chicago, de parents avec des origines françaises et italiennes. Donc, il fait ses études de mathématiques, de philo. Et très rapidement, à 22 ans, il va entrer chez les Augustins. Les Augustins, c'est... Alors, on en parlera tout à l'heure.
Et il en a parlé hier dans son discours. « Je suis un fils de Saint-Augustin », a-t-il dit.
Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone. Hippone, donc le nom actuel, c'est Annaba. Donc, en Algérie, c'est... En fait, Augustin, c'était un chrétien de l'Empire romain d'Afrique. Voilà. Et qui va laisser des écrits connus, notamment les Confessions, la Cité de Dieu, etc. Et puis, donc, il va être à l'origine... C'est pas lui qui l'a créé directement, mais après, il va inspirer... la fameuse congrégation des Augustins, à laquelle appartient donc le nouveau pape. Voilà. Et Alors, ce qu'il va faire, il va partir très rapidement au Pérou. Il va y rester quand même assez longtemps.
Une vingtaine d'années.
Alors, c'est entrecoupé, hein. C'est un peu compliqué parce qu'il va être, à un moment donné, de 2001 à 2013, pendant 12 ans, prieur général de son ordre. Ça veut dire qu'il est à Rome, ça veut dire qu'il voyage à travers le monde et qu'il va notamment aller en Afrique. Et puis, il va revenir au Pérou. Là, il va être nommé évêque de Chiclayo. Voilà, certains disent c'est presque comme Chiclayo.
Chiclayo, c'est dans les montagnes du Pérou.
Andine. Voilà, voilà, exactement. Et puis, il va être également vice-président de la conférence épiscopale du Pérou. Donc, ça ne sera qu'en 2023, mais c'est une ascension très rapide.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a encore 10 ans, il était prêtre. Il a été créé cardinal il y a 2 ans.
C'est très rapide.
Donc, c'est un parcours fulgurant.
Oui, c'est un parcours. Il a été repéré. Manifestement, il a été repéré par le pape François, qui a vu en lui... Je ne sais pas, peut-être son successeur, hein, puisqu'il il a quand même été choisi comme cardinal, mais en tout cas, il a été repéré, oui, sûrement.
Est-ce qui fait la différence aussi, enfin, ce qui a peut-être certainement pesé au moment de l'élection durant le conclave, c'est son expérience du terrain, vous le disiez tout à l'heure,
et
on
va
y revenir. Bien évidemment, au standard, 33 9 693 693 70, avons-nous Jean-Baptiste? On me dit que oui, bonjour.
Je vous en prie.
Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue sur RFI.
Bonjour, monsieur Ewan. Alors, j'avais une question à poser concernant le pape.
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend les chats du nom de Léon XIV?
Pardon?
Qu'est-ce qu'on entend le nom du
chat
de Léon XIV?
Ah, que sous-entend le nom de Léon XIV? Pourquoi a-t-il choisi ce nom-là, Geneviève Delrue?
C'est très, très important et très intéressant. Parce que quand un pape choisit son prénom, ça peut être en référence à son prédécesseur, à qui, voilà. Par exemple, Jean-Paul II, c'était par rapport à Jean-Paul Ier, hein, par exemple. Bon, on n'aurait pas vu là un François II ou un Benoît XVII. Il faut, il ne se serait pas démarqué. Bon, là, c'est très intéressant, c'est qu'il a pris la suite, en quelque sorte, d'un pape, Léon XIII, qui est mort au tout début du XXe siècle, qui est un pape donc du XIXe siècle, qui a publié une encyclique extrêmement intéressante, qui était une encyclique sociale, qui va donner, la base de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que c'est Rerum Novarum, hein, le nom, hein, des choses nouvelles, c'est le monde qui change à ce moment-là, le monde saint. Industrialise, la condition ouvrière est très pénible, très dure.
Et le pape Louis XIII dénonçait à l'époque les conditions de vie des ouvriers.
Il trouvait que ces conditions étaient terribles, qu'il y avait que le pouvoir économique était concentré, donc Léon XIII. Et il s'est dit voilà, il faut que l'Église puisse proposer une sorte d'accompagnement, en tout cas une réflexion, que l'Église ne peut pas uniquement être dans la vie religieuse, elle doit aussi s'impliquer dans la société. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque où le socialisme monte, il y a Marx, etc., il y a toute cette période politique, j'allais dire, qui émerge, eh bien lui, il va influencer, enfin en tout cas, il va... influencer la naissance du syndicalisme chrétien qu'on va retrouver. En fait, c'est le début du catholicisme social qu'on va tout à fait bien connaître en France, dans le nord de la France, et même le général de Gaulle, quelque part, s'est inspiré de ce catholicisme social. Donc c'est très intéressant de voir cette filiation, et ça dit beaucoup de ce qui va arriver. Ça va être un pape de la justice sociale.
Bah écoutez, on suivra ça et on sera évidemment très vigilants aux premières prises de parole officielles, publiques, du nouveau pape. Un pape qui ne choisit donc pas par hasard le nom qu'il souhaite porter. On a une question encore sur les noms. Jérôme, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour à notre invité.
Bonjour Jérôme.
On vous écoute.
Je voudrais savoir pourquoi à chaque élection d'un nouveau pape, ce dernier renonce à son nom à l'état civil pour porter le nom d'un personnage de l'Église catholique du passé.
Ben oui, c'est une bonne question. Pourquoi les papes changent-ils de nom au début de leur pontificat?
Alors, je vais vous répondre, c'est la tradition, mais c'est qu'une réponse.
Mais d'où vient cette tradition?
Exactement, c'est une demi-réponse. Alors, il semblerait que le premier pape, et qui portait un nom romain lié à une divinité païenne, romaine, a décidé, je crois que c'était Jean, a décidé de prendre le nom d'un apôtre pour précisément, probablement, en référence bien sûr aux apôtres, aux grandes personnalités de l'Église, mais aussi probablement pour, en quelque sorte, endosser une fonction. C'est-à-dire qu'on passe dans un autre statut. Hein, on passe dans un autre statut. On n'est plus Robert Francis, on est...
On est Léon.
On est Léon,
comme
voilà.
Le précédent pape était donc François.
Exactement.
François en...
Jorge Mario Bergoglio.
Voilà, c'était voilà. son nom. Il est devenu François. François en hommage à Saint François d'Assise.
Saint François d'Assise. Et ce qui allait effectivement donner le ton de son pontificat.
Effectivement.
Voilà, les pauvres, l'environnement, etc.
On repasse au standard. Il nous reste 4 minutes avant la dernière édition d'Afrique Matin. Il y a beaucoup d'auditeurs. Merci à tous de votre confiance. Bonjour, qui ça ? Saliou, bonjour.
Oui, bonjour Anne Gomez.
Bienvenue, bonjour, vous êtes à Conakry, on vous écoute.
Oui, bonjour Anne Gomez et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Bonjour à tous mes parents de bureau dans la préfecture de Télémélé.
Bon, voilà, c'est donc, dit.
j'ai une question concernant les cardinaux africains. Des cardinaux africains étaient-ils des candidats ?
Ouais.
Si oui, qu'est-ce qui peut expliquer leur défaite ?
Alors déjà,
c'est pas une défaite.
Alors expliquez-nous déjà, est-ce que les cardinaux se portent officiellement candidats ?
Bah, ils sont.
Est-ce qu'ils font acte de candidature déjà ?
Non, parce qu'en fait, ils appartiennent au collège des cardinaux, mm-hmm. où il faudrait qu'ils demandent à ne pas à participer au conclave. Bon, pourquoi pas ? Mais pour raison de santé, par exemple. Mais non, ils se portent pas candidats. C'est pas une élection politique.
Ouais.
C'est pas une élection politique. Donc la notion de défaite, le mot défaite n'est pas un mot juste.
Mais beaucoup d'auditeurs du continent africain
oui,
nous disent sur nos réseaux sociaux avoir ressenti une certaine déception hier. Et en voyant apparaître le nouveau pape, on se dit, une fois de plus, pape n'est pas originaire du continent africain où probablement et très certainement l'Église catholique est la plus dynamique en ce moment.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une petite déception parce que par exemple le cardinal Fridolin Ombongo...
De la République démocratique du Congo.
Il a largement la stature pour être pape, évidemment qu'il a la stature. Simplement là, ce qui pouvait se passer, c'est que, je pense par exemple au cardinal Ombongo, il s'est élevé très nettement contre la fameuse, comment dirais-je, directive, si je puis dire, mais c'était, directive adressée aux prêtres du monde entier de pouvoir, dans certains cas, bénir des unions homosexuelles. Et là, vraiment, c'est pas passé.
Ouais, ça a suscité une bronca.
Une bronca. Il est allé
mais
à
au
Rome.
Sein de tous les cardinaux africains, il n'était pas
absolument.
Le seul. Mais effectivement, le cardinal Ombongo a pris, on va dire, la tête de ce mouvement de contestation.
Complètement. Ouais. Et du coup, il est apparu comme un cardinal très conservateur et que. J'imagine, s'il avait été élu, ça aurait posé un problème, parce qu'il serait probablement revenu sur cette directive. Enfin, ça aurait créé un problème entre le Nord et le Sud, enfin, une sorte d'incompréhension qui se serait encore accrue, un fossé qui se serait accru. Donc, c'est ça qui était compliqué. C'est pas du tout sa personnalité, ses capacités. Il les a largement pour être pape, évidemment.
Mamadou est à Dakar. Il a une question à vous poser à peu près sur le même sujet. Bonjour, Mamadou.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute.
Bonjour.
Ma question est de savoir, peut-on espérer avoir un pape d'origine africaine dans le futur, vu qu'on avait 5 qui étaient sur la liste?
Ah oui, alors il y avait 5, effectivement, il y avait 5 cardinaux africains sur une shortlist. On parlait de Fridolin Bongo, mais il y avait également le centrafricain
Zapalinga,
le guinéen Robert Sarra. Bon, on va pas tous les citer.
Il allait avoir 80 ans
le mois prochain, il me semble, pour le cardinal Robert Sarra. À quand un pape africain ? Voilà, pour résumer un peu la question de Mamadou.
Tout dépendra de la longévité de ce pape. Et d'ailleurs, ça pose une autre question. Est-ce que les papes doivent aller jusqu'à leur mort naturelle ?
Mais revenons à la question.
Oui, à la question.
L'Église catholique est-elle prête, pour dire clairement les choses, à élire un pape africain ? Visiblement, non aujourd'hui, mais dans un futur proche ?
Il y en aura un, ça j'en suis absolument certaine, dans la mesure où c'est le continent effectivement qui offre le plus grand nombre de vocations, je le pense, mais effectivement il faudra probablement une sorte de lissage entre le Nord et le Sud pour que sur les questions sociétales, je pense que ça jouera beaucoup.
On continue cette discussion, Geneviève Delrue, avec les auditeurs de RFI, juste après la dernière édition d'Afrique Matin. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous aurez la parole dans 10 minutes. Quelques questions, mais beaucoup de réactions dans la deuxième partie de l'émission. Il est 10h30 ici à Paris.